Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puer natus est nobis. Réjouissez-vous, mes bien chers frères, le Seigneur nous est né. Vous avez choisi d'assister à la messe de l'aurore, la plus intime peut-être des trois messes de Noël. À la première messe, celle de la nuit, c'est le recensement de l'empereur qui nous est rappelé et les anges qui annoncent aux bergers la venue du Christ. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, c'est la mise en route de ces bergers qui viennent d'entendre la bonne nouvelle. Et dans la messe qui va suivre, la messe du jour de Noël, c'est la méditation de l'incarnation. Alors, cette messe de l'aurore nous invite, à mon avis, à regarder les protagonistes pour voir ce qu'ils peuvent nous apprendre de notre propre vie. Je vous propose de voir d'abord les bergers, puis Marie et Joseph rapidement, puis l'enfant Dieu un instant. Oui, les bergers, ce sont à la fois les premiers témoins et les premiers apôtres. C'est eux les premiers qui ont vu, en dehors de Marie et Joseph, c'est eux les premiers qui ont vu le Christ. C'est eux les premiers à qui cela a été annoncé. Alors, souvent, on commente ce passage en disant « mais c'est parce que c'est les plus pauvres ». C'est un peu court. C'est un peu court parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus dans ces bergers que simplement des gens pauvres. Il y a d'abord des gens au travail. Et oui, les bergers gardent les troupeaux, même la nuit, et peut-être même surtout la nuit, pour éviter qu'on vienne leur voler des brebis ou que les coyotes dans le désert ne viennent en dévorer. Le Seigneur est venu d'abord s'adresser à ceux qui étaient sur le pont, à ceux qui étaient prêts, à ceux qui étaient éveillés, à ceux qui veillaient en attendant la venue du Christ. Et nous n'avons pas d'autre moyen, mes bien chers frères, d'attendre la venue du Christ que dans notre vie normale, dans le travail de la famille, dans le travail extérieur qui est le vôtre. C'est comme ça que nous attendons et veillons le Christ. Et puis, ces bergers, ce ne sont pas n'importe qui. Dans un peuple de pasteurs, les bergers sont des gens importants. Et oui, n'oubliez pas que le roi David lui-même, avant d'être roi, gardait les brebis, et figurez-vous justement à Bethléem. Ces bergers sont la figure davidique du roi à venir, c'est eux qui vont reconnaître le roi. Et ils y vont en toute hâte, il n'est pas question de traîner, il n'est pas question de lambiner. Et oui, quand on travaille, on fait les choses avec foi et avec hâte. Et de quoi vont-ils témoigner ? Ils vont témoigner de quelque chose d'essentiel. Vous avez entendu, ils vont à la crèche, ils voient un enfant dans une mangeoire et ses parents, rien que de plus banal, c'est-à-dire qu'ils vont témoigner que Jésus-Christ est bien homme. Mais s'ils glorifient Dieu, s'ils se convertissent, s'ils chantent les louanges de Dieu, c'est pas simplement parce qu'ils ont vu un enfant, c'est parce que cet enfant correspond en tout à l'annonce qui a été faite, miraculeuse, elle, des anges. Et donc, ils témoignent en même temps, en voyant cet enfant, que c'est bien un homme, un tout petit homme, et que c'est bien un Dieu. Voilà le premier témoignage essentiel qu'ils nous donnent. Que vont-ils faire, ces bergers ? Deux choses. D'abord, ils vont adorer le Seigneur. C'est évident. Je vous invite à emmener les enfants, et si vous-même vous avez encore un cœur d'enfant, à venir jusqu'au pied de la crèche et à embrasser l'enfant. Eh bien oui, c'est une pratique sainte, adorer le Seigneur. Lui faire des cadeaux en Orient, il n'est pas concevable qu'il soit arrivé les mains vides. On ne vient jamais sans rien, surtout chez quelqu'un d'important. Ils sont donc venus, ci et là, avec peut-être un agneau, du lait, du fromage, de la paille, que sais-je. Bref, ce qu'ils avaient à offrir. Voilà l'origine des cadeaux que nous faisons à Noël. En allant voir le Christ, nous voulons tout donner. Et c'est dans les autres, et d'abord dans les plus petits, que nous le reconnaissons. Voilà pourquoi nous faisons des cadeaux. Rien de plus chrétien que cette pratique. Ne vous laissez pas enlever, ne vous laissez pas paganiser cette sainte pratique de faire des cadeaux. Oui, ils adorent le Christ et lui offrent tout, et puis ils vont s'en aller et ils vont répandre la bonne nouvelle immédiatement. Et oui, c'est une petite ville que Bethléem. En plus, elle foisonne de beaucoup de monde en raison du recensement ordonné par l'empereur. Et cette nouvelle va vite se répandre. Tous les gens disent, dit l'Écriture, Saint-Luc nous précise, que tous étaient émerveillés de ce qu'il disait. C'est donc que ce qu'il rapporte, c'est pas simplement qu'ils ont vu un enfant, parce que ça, c'est réjouissant et c'est beau, mais il y a beaucoup plus, ils ont vu le Christ venir, Dieu parmi les hommes. Voilà, mes bien chers frères, pour ces bergers, que nous voulons être encore en allant à la crèche, en venant l'adorer ici à la messe et en le recevant au-dedans de nous. Un regard rapide maintenant sur Marie et Joseph. D'abord, il est bien de mentionner Joseph parce qu'il est tellement discret et on le mentionne tellement peu que quand on le mentionne, il faut le noter. Et oui, Joseph comme Marie sont déjà fortifiés par le témoignage des bergers. Bien sûr, il leur a été annoncé il y a 9 mois que c'est le Seigneur qui venait, que c'est le roi des rois qui venait. Mais bon, ils ont connu une vie d'hommes et de femmes normaux. Ils sont mis en marche comme tout le monde. Ils ont dû connaître, ils ont dû accoucher, se mettre à l'écart pour accoucher. Bref, rien que de très humain. Et voilà que le premier témoignage divin qu'il leur est donné, eh bien, c'est les bergers qui viennent leur dire. Qui viennent leur dire « Des anges nous sont apparus, le Seigneur doit être ici, ici il y a un roi ». Et oui, Joseph et Marie sont dans leur foi fortifiés par ce témoignage. Pensez-y quand vous rendez témoignage aux plus petits, pensez-y quand vous rendez témoignage autour de vous, pensez-y quand même on semble vous interroger en disant « Oh, est-ce que c'est vraiment vrai ?» Enfin, oui, témoignez de votre foi, c'est ainsi que vous allez fortifier vos frères, ils en ont besoin. Joseph et Marie ont eu besoin de ce témoignage et de celui des rois mages qui va venir, car leur tâche va être rude, il va falloir se sauver en Égypte, puis revenir, bref, vivre une vie ardue. Marie, dit-on, garde tout cela dans son cœur. Elle médite et garde dans son cœur. Ne croyez surtout pas que Marie est alors le modèle de la femme taiseuse dans un coin qui dit rien, pas du tout. En gardant cela dans son cœur, elle fait une action totalement divine, totalement qui s'accorde au plan divin, car c'est une action très forte. Elle médite. La première des actions, c'est la prière. C'est l'action la plus spirituelle et la plus essentielle. Et en Marie, il n'y a pas de péché. Alors, elle médite et reçoit immédiatement tout cela profondément dans son cœur en lui donnant un sens. Bref, elle interprète les choses, elle interprète les événements en les replaçant dans le plan divin. Et oui, en méditant ces choses dans son cœur, elle ordonne en elle la parole de Dieu qui lui a été donnée et c'est de cette parole dont elle témoignera auprès des apôtres beaucoup plus tard, pour qu'ils puissent écrire l'Évangile. C'est grâce à la méditation profonde de la Vierge Marie que nous connaissons, que nous avons conservé l'essentiel de la vie du Christ, de son plus jeune âge jusqu'à sa vie d'adulte. Voilà, c'était mon deuxième point pour Marie et Joseph, on ne pouvait pas passer sans les regarder un peu. Et puis, posons maintenant notre regard sur l'enfant. Cet enfant qui s'est abaissé jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire qu'un Dieu ne pouvait pas faire plus, cela ne peut être inventé dans aucune religion. Toutes les religions connaissent Dieu, enfin savent que Dieu existe. Toutes les religions peuvent avoir une idée plus ou moins juste de Dieu. Toutes les religions, certaines, pardon, peuvent avoir l'idée qu'on peut même parler à Dieu. Mais voilà, personne n'aurait pu inventer que Dieu se fit l'un de nous, c'est-à-dire qu'il s'abaissa à tel point qu'il est devenu homme. C'est incompréhensible, mes bien chers frères, aussi incompréhensible à l'entendement humain que l'est la présence du Christ continuée dans son incarnation, je veux dire dans l'Eucharistie. Oui, nous le croyons. Mais comment pouvons-nous le comprendre au sens propre du terme, c'est-à-dire mettre en nous profondément cette intelligence, nous ne pouvons que l'approcher, nous ne pouvons que l'adorer, nous ne pouvons que nous dire que ce Dieu, ce roi des rois, s'est fait tout petit dans le plus petit des êtres, dans le plus petit des peuples, au plus profond de la nuit et au plus profond de l'hiver, c'est-à-dire quand il n'y a plus de lumière. Il est cette lumière, il est ce nom par qui, il est le seul nom par qui nous devons être sauvés, dit les Actes des Apôtres. Bref, il manifeste dans cette petitesse la force de Dieu. C'est une grande force qu'il faut pour se rendre petit. Vous le savez peut-être, il est facile de s'élever, il est facile de briser, il est facile de manifester une certaine force virile, mais ce qui est difficile, c'est de s'abaisser au point de se faire tout petit. Il nous faut entrer dans l'intelligence de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas une puissance de destruction, c'est une puissance de création. Quand vous tiendrez un petit enfant dans les bras, la prochaine fois, on vous en prêtera un dans vos bras, un qui vient de naître, vous savez, un qui a quelques jours, eh bien, vous comprendrez ce qu'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne consiste pas à écraser ou à faire du mal, c'est l'inverse. La grande puissance, quand on vous confie un enfant dans les bras, c'est de l'entourer, de le garder et de le faire vivre. Oui, Dieu, dans sa puissance, se manifeste dans cette force qu'il faut pour s'abaisser jusqu'à nous. « Je ne peux plus craindre, disait Thérèse de l'enfant Jésus, un Dieu qui, pour moi, s'est fait si petit. » Et dans cette petitesse, il manifeste. C'est une épiphanie, au sens grec du terme. Il y aura donc l'épiphanie des bergers, l'épiphanie des rois mages, l'épiphanie de Anne et Siméon au temple. Ce sont des manifestations successives qui nous disent que le Seigneur est venu. Et pourquoi est-il venu? Pourquoi tout cela? Pourquoi sommes-nous rassemblés? Pour une seule chose, pour manifester que Dieu est venu nous sauver. Oui, le Seigneur aurait pu nous sauver de bien des manières. Il aurait pu simplement le décider, il aurait pu simplement le dire. Il n'a pas voulu cela. Il a voulu se faire l'un de nous, il a voulu incarner ce salut, il a voulu prendre sur lui, avec lui, notre nature. C'est une coopération libre que le Seigneur nous invite à réaliser. Mais bien, chers frères, en venant communier, vous réalisez la venue du Christ parmi vous, vous acceptez que le Seigneur se fasse une fois de plus si petit. Encore une fois, vous allez, comme les bergers, adorer et témoigner. Ainsi soit-il.